Élection Réunion. Émission spéciale parole aux auditeurs. Si j'étais président de la République.
Si j'étais président de la République, c'est un espace offert à nos auditeurs pour présenter brièvement leur mandat.
Si vous étiez président de la République, quelles mesures prioritaires prendriez-vous dans un secteur de commune en RDC?
Rendez-vous avec parole aux auditeurs, si j'étais président de la République, chaque mardi et vendredi, de 11h à 12h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapou.
Bien, comment prévenir la malnutrition infantile en milieu rural? Soufi Nyembo nous appelle de Kalima, au Manima, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Sachama, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs. J'ai des questions à poser à notre invité, la première est de savoir. Ici chez nous à Kalima, nous constatons que les cultivateurs cultivent beaucoup de chats, par exemple de chats maîtres. Il y en a qui mangent même la semence de pouvoir semer à tous les chats. Mais j'ai entendu et j'ai écouté à d'autres personnes qui disaient à d'autres pays, le gouvernement donne la semence, bien les semences aux certains cultivateurs pour permettre à ce que leurs chats soient bien sûr avoir toutes les semences. Et Dédé aussi, je voudrais continuer à dire ceci. Ainsi, chez nous à Kalima, nous voyons encore les enfants qui étudient en première jusqu'à sixième primaire. Ils mangent les mangebo ainsi que le gari. Les quachocor commencent à se diminuer. Est-ce qu'à Kinshasa aussi, les enfants du primaire mangent les mangebo ainsi que le gari? Je dis Daniel, je dis et je vous remercie.
Alors, Soufi Nyembo,
oui?
Vous vous dites qu'ils mangent les mangebo et les gari.
Le gari, donc mangebo, c'est mangekel.
C'est mangekel, c'est quoi, c'est quel type de repas?
C'est comme l'haricot.
Ah, c'est comme
l'haricot.
Oui.
Les femmes commencent à préparer pendant les jours en classe.
Pendant la récré.
Les enfants mangent ça.
Voilà, les mangels et les ougaris, c'est ça?
Oui, mangebo.
Mangebo. Bien. Merci, Soufi. Sylvain Adi Morotti nous appelle de Bounia, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, je dis, en fait, c'est Sylvain Adi Morotti, c'est ça mon nom.
Ah, voilà.
Je suis parfaitement d'accord avec votre invité par rapport au réseau qu'il a évoqué. Sur les causes de la malnutrition dans les milieux ruraux.
Mmh.
Mais en fait, je voudrais lui poser une question. Si nous étions dans l'hypothèse où, dans des pays tels que chez nous, en RDC, où la politique sociale est presque concédée au secteur des humanitaires, comment peut-on déclencher les mécanismes qui vont consister à équilibrer l'alimentation dans les milieux ruraux? Voilà ma petite question.
Merci. Docteur Émile. Je vais répondre au premier intervenant. En fait, il voulait savoir si en milieu rural, à Kinshasa aussi, les enfants mangent les lougars. Les je suppose que c'est la farine de maïs. Effectivement, nous sommes tous dans un pays où il y a un brassage tel que nous avons pratiquement les mêmes habitudes.
Oui.
Que ce soit à Kalima ou à Kinshasa, en tout cas, on mange presque tous les mêmes choses. Et rassurez-vous, même à Kinshasa, le taux de malnutrition est aussi élevé qu'à Kalima. Donc, en fait, nous avons les mêmes problèmes, que ce soit à Kalima ou à Kinshasa, en termes de malnutrition des enfants.
Alors, si les enfants mangent tous les jours à l'école avec le gari, le repas n'est pas diversifié, ça peut entraîner la malnutrition.
Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Donc, manger chaque jour le gari là et les sortes de haricots là,
oui.
Ça ne suffit pas pour couvrir les besoins de l'organisme pour la croissance de l'enfant.
Il faut diversifier,
absolument. Et c'est ça, j'ai l'habitude de dire que nous mangeons tous très mal. On pense que manger beaucoup de haricots avec beaucoup de coucou, on a l'estomac plein, on croit qu'on a...
Les gens pensent beaucoup plus à la quantité, ils voient la quantité.
On voit plus la quantité,
et non la qualité.
La qualité.
Ouais.
Donc, cette monotonie-là va conduire tout droit aussi à la malnutrition. Il faut de temps en temps, et pas de temps en temps, régulièrement, varier aussi, diversifier l'alimentation pour espérer couvrir les besoins de l'organisme.
Voilà, Sylvain de Bounia, il dit comment équilibrer l'alimentation alors que ce secteur-là est délaissé, est abandonné entre les mains des humanitaires.
Et nous pensons que pour équilibrer l'alimentation, il faut deux choses. La première chose, c'est rendre les aliments disponibles. Rendre les aliments disponibles, donc une partie un des éléments de la sécurité alimentaire, apprendre aux gens à produire. Et là, je reviens
à parler des semences.
Oui. C'est vrai que nous avons des services dans ce pays qui ont comme mission d'assurer, de mettre à la disposition de la population des semences de bonne qualité. Parce que parfois, nos paysans travaillent. Ils sèment, mais avec des semences presque déjà dégénérées. Donc, le taux vraiment de rendement des champs qu'ils font est très faible. Et ça ne les encourage pas à continuer à travailler. Mais si on pouvait les accompagner, dans le temps, nous pensons qu'on avait, même dans le village, ce qu'on appelait des moniteurs agricoles, qui accompagnaient les paysans dans leurs petits champs et c'est à leur montrer comment ils travaillaient. Et ça leur permettait d'augmenter leur production.
Oui.
Et cela rendait aussi l'alimentation disponible.
Disponible. Voilà. Deux autres auditeurs en ligne, Rigobert Lingueno et Takinshasa, et Tiana Katumanga nous appelle de Kananga. Rigobert, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama. Bonjour, notre invité.
Bonjour.
Je l'ai bien suivi. Il a parlé que c'est souvent dans les milieux ruraux où on trouve des enfants qui sont mal nourris. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est dans les lieux rurales qu'on est en train de produire les produits agricoles, nous ne sommes pas si arrivés. Mais comment se fait-il que eux qui produisent des choses que nous bénéficions ici dans la ville, mais nous trouvons que c'est eux que leurs enfants sont malnutris. Il n'y a pas une politique agricole ou de santé qui pourra aider les enfants dans qui produisent des produits agricoles qui puissent améliorer leur santé.
Merci Rigobert. Etienne Katumanga de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi.
Allez-y, quelle est votre préoccupation?
Ok, merci. Je voulais demander un peu à notre invité s'il peut nous donner la différence entre la malnutrition et la sous-alimentation.
Bien, docteur Emile. Okay. Merci pour la question à Rigobert. J'ai dit, c'est vrai, ça semble être paradoxal. Comme tu l'as dit, le milieu rural où on produit les aliments, c'est là où on trouve les enfants plus en malnutrition. Mais c'est tout simplement parce que le milieu urbain qui apparemment a beaucoup plus de moyens financiers que le milieu rural va acheter tout ce que les paysans produisent. Il ne leur laisse pas. Nous voyons par exemple, si on va au Bas-Congo pendant les périodes de... On va voir les Quinois qui vont assiéger les moments paysans jusqu'à leur acheter leurs maniocs qui sont encore dans les champs. On achète des oranges sur les orangers qui ne sont même pas encore cueillis. On a tout acheté. En fait, on leur laisse pas le temps d'avoir des provisions pour eux-mêmes. Ceux qui ont plus de moyens, ceux qui sont en milieu rural, en milieu urbain, viennent tout acheter.
Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème d'ignorance? Peut-être que les produits peuvent être disponibles, mais c'est l'ignorance qui pose problème.
Ok. Ça, c'était la réponse par rapport à la production et la disponibilité.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on peut bien manger avec peu. Il faut connaître, savoir que contient ce qu'on va manger. Et là, je crois, mais ça va être une réponse aussi à la question du deuxième intervenant. Il nous faut renforcer la sensibilisation, l'éducation. En fait, nous ne communiquons pas suffisamment avec nos populations.
Alors, quelle est la différence entre malnutrition et sous-alimentation?
La malnutrition et la sous-alimentation. D'abord, la nutrition elle-même, c'est en fait le processus d'utilisation des aliments par l'organisme pour couvrir ses besoins. Tandis que l'alimentation, c'est le fait d'apporter les aliments à l'organisme. Alors, la sous-alimentation, c'est seulement quand on n'apporte pas suffisamment d'aliments à l'organisme, c'est la sous-alimentation.
C'est ça la sous-alimentation.
La malnutrition, c'est un processus beaucoup plus important qui se passe à l'intérieur de l'organisme.
Robert Bouindoua, vous êtes à Bukavu, bonjour.
D'accord, c'est Roger Bouindoua.
On vous écoute.
c'est Roger Brendois, je suis avocat vous.
Oui, Roger, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, j'ai deux préoccupations en fait. Je viens du Nord Kivu, pour une couverture médiatique. Nous avons été à Kimura, c'est un lieu abandonné qui est géré par les FDLR. Là, les habitants ont tout abandonné. Donc les champs productifs sont dans les mains des FDLR qui sont maîtres du terrain. Et les habitants ne font quoi? Ils ne font que faire les ramassages des colcas. Donc c'est devenu pratiquement leur aliment de tous les jours.
Oui.
Là où ils pouvaient exploiter les poules pour mettre des poissons, ce n'est plus possible. Les étangs sont dans les mains des patrons des lieux. Et nous avons fait dans ce documentaire la descente sur terrain dans les écoles. Et nous avons trouvé que les enfants d'âge très avancé n'avancent pas dans les écoles, dans les classes. En sixième année primaire, vous trouvez un enfant de 17 ans, mais vous le soumettez à un petit exercice intellectuel, vous trouvez que l'enfant ne s'en sort pas. À Bukavu, parce que l'intervenant venait de dire tout à l'heure que les grands centres sont des lieux de consommation, vous trouvez plutôt qu'il a fallu une petite Bukavu pour aller dans Katana, qui était le grenier de Sud-Kivu. Vis-à-vis de ces problèmes-là, qu'il soit une incidence de la situation d'insécurité et de tout ça, qu'est-ce que ces paysans peuvent faire pour parer aux problèmes de malnutrition?
Merci Robert Bourindois de Bukavu, docteur Inger. Merci Robert pour votre question. Je pense que vous venez de soulever là une problématique structurelle. Là, c'est un problème de politique. De politique agricole, je veux dire. Parce que ce paysan-là, celui-là qui est sous occupation, si je peux me permettre le terme de FDLR, est privé de ses moyens de se prendre en charge. Alors, il faudra que les autorités puissent penser à couvrir les besoins de ces populations. Et c'est là que vous venez donner un exemple qui traduit nettement justement ça, l'impact de la malnutrition sur le résultat scolaire des enfants. Parce que nous savons qu'un enfant qui fait la malnutrition, si ça commence dans le plus bas âge, etc., son quotient intellectuel est réduit. Et quand son quotient intellectuel est réduit, le fils même s'âge. Ces prestations scolaires vont être réduites.
Oui, alors, docteur Emile, vous avez dit qu'il faut prévenir la malnutrition. Il faut d'abord la promotion de l'allaitement maternel et la nutrition de la femme, de la mère. Alors, à part cela, quels sont les repas qu'on peut associer pendant une semaine, par exemple, pour donner à un enfant afin de prévenir la malnutrition? Donc, on est vraiment concret. Donner le type de repas qu'on peut associer pour donner à l'enfant.
Oh. Donc, les aliments. Les différentes combinaisons sont multiples. Prenons seulement son disant, il y a une pyramide alimentaire qui dit que nous avons besoin d'aliments qui donnent de l'énergie, d'aliments qui donnent des protéines et puis d'aliments qui donnent principalement les vitamines et les minéraux, etc. Dans une composition d'aliments, il faudra d'abord privilégier une grande partie d'aliments qui donnent de l'énergie. Chez nous, par exemple, nous avons soit la farine, le foufou, le ougari, tout ça, le riz, l'igname, etc. Ce sont des aliments énergétiques qui donnent l'énergie. Et ça, il faut mettre en plus grande quantité. Et puis, il y a des aliments qui donnent des protéines, notamment viande, poisson, chenille, tout ce qu'on veut là. Et puis, il y a aussi, alors le troisième groupe, un peu en plus petite quantité, parce que cela donne des micronutriments, comme on dit. Ce sont les légumes, les fruits, etc. Donc, il faudra prendre des dispositions pour que, au moins, à chaque ration alimentaire, il puisse avoir une combinaison de ces trois types d'aliments.
À
des proportions, bien sûr.
Mais si on n'a pas assez de moyens, on peut quand même offrir un repas riche à son enfant.
Ah oui. Ce n'est pas seulement les moyens qui font que... Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui mangent très mal. Il y a des gens qui croient. J'ai connu un monsieur qui, lui, dit qu'il ne mange jamais de légumes. Les légumes, ça, c'est pour la basse classe. Lui, du 1er au 30, il mange la viande, etc. Mais quand il essaie de trouver avec des gouttes au pied, il ne sait plus porter ses chaussures,
Cette semaine, il a compris qu'il mangeait très mal. Donc, avec peu d'argent, un peu de légumes, un peu de chenilles, avec sa farine, on peut faire des combinaisons variées de jour en jour et on peut bien manger.
Oui, certains nutritionnistes se préconisent le soja, donner régulièrement le soja aux enfants.
C'est une légumineuse qui est aussi une source de protéines. Donc, en fait, le soja seul ne suffit pas. Il faut combiner le soja avec d'autres aliments pour faire une alimentation équilibrée, comme on dit.
Équilibrée. Bien, merci, docteur Émile Lebouki, conseiller au programme national de nutrition. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.